Il existe des tas d'écrits anonymes. Quelquefois, c'est simplement une citation, une petite phrase qui fait réfléchir ou un poème. Il y a aussi pas mal de livres où l'auteur n'utilise pas son vrai nom mais un pseudonyme, ce qu'on appelle un nom de plume. Par contre, il est rare de trouver un ouvrage où l'auteur ne donne pas le moindre indice concernant son identité. C'est pourtant le cas d'un texte du Nouveau Testament appelé simplement l'Épître aux Hébreux. Ce livre se présente comme une énigme à plusieurs niveaux car on ne sait pas avec certitude à qui il était destiné, qui en est l'auteur et quel est l'événement déclenchant qui l'a motivé à écrire. Mais cette ignorance n'affecte en rien la compréhension du message qui demeure éternel et pertinent, quelles que soient les circonstances qui l'entourent. L'Épître aux Hébreux est une portion particulièrement riche du Nouveau Testament parce qu'elle exalte la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ d'une manière différente des autres écrits canoniques. Elle apporte donc une contribution précieuse aux enseignements concernant son incarnation, sa mort à la place des pécheurs et son sacerdoce actuel, c'est-à-dire son ministère en tant que grand prêtre au service de tous ceux qui croient en lui. Peu après le premier siècle de notre ère, des responsables chrétiens ont rassemblé les livres du Nouveau Testament pour former le canon qu'ils croyaient inspiré de Dieu. À cette occasion, des titres ont été ajoutés à certains ouvrages pour raison de commodité. Celui de l'Épître aux Hébreux provient de la version grecque qui était intitulée « Aux Hébreux » et qu'on rencontre depuis la fin du IIe siècle après Jésus-Christ chez des écrivains chrétiens comme Clément d'Alexandrie ou Tertullien. Toutefois, l'Épître elle-même ne précise nulle part qui sont ses destinataires. Cependant, si son titre traditionnel a pu être maintenu, c'est en raison de ses très nombreuses allusions à l'histoire et à la religion hébraïque, et aussi à cause de son indifférence et désintérêt total à l'égard des croyances et pratiques païennes. L'utilisation systématique de textes et de thèmes de l'Ancien Testament, et plus particulièrement du livre du Lévitique, ainsi qu'une argumentation théologique très complexe et méticuleuse, montre assez nettement que l'arrière-plan des destinataires de cet épître était ancré dans le judaïsme fondamental et traditionnel. Ces gens avaient l'habitude de discuter les Écritures. Ils possédaient une solide connaissance de l'enseignement théologique de l'Ancien Testament et comprenaient bien le rôle des prêtres dans le culte juif. De plus, la mise en garde sévère que l'auteur adresse à ses lecteurs contre la tentation de retourner à la foi judaïque n'aurait aucun sens pour des personnes issues du paganisme. Le groupe principal visé par cet épître est formé par des chrétiens d'origine juive qui sont rejetés, persécutés par leurs compatriotes. Faibles dans la foi en Jésus-Christ, ils sont tentés de maintenir ou de revenir aux rites et préceptes du judaïsme. Le second groupe visé par cet épître est constitué par des juifs convaincus que Jésus est le Messie, le Sauveur et le Seigneur, mais qui n'ont pas fait le pas de la foi en se confiant en lui. Plusieurs passages semblent s'adresser spécifiquement à eux. Le troisième groupe est composé de juifs qui ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas convaincus qu'il soit le Messie et le Sauveur. Un chapitre en particulier les concerne plus spécialement. Le terme « hébreu » en parlant d'une certaine catégorie de croyants est utilisé dans le livre des Actes pour distinguer les juifs de Palestine parlant l'araméen de ceux parlant le grec originaire des quatre coins de l'Empire romain. Pourtant, il est quasi certain que les destinataires de l'Épître aux Hébreux formaient une communauté juive spécifique composée d'une ou plusieurs assemblées voisines. Tous ces gens, dont certains étaient chrétiens et d'autres pas, ainsi que leur histoire, étaient connus de l'auteur. En effet, il est bien informé de leur situation, des souffrances que les croyants ont dû endurer puisqu'il fait allusion à leur premier jour quand ils ont accepté Jésus-Christ. Il connaît leur dévotion et générosité passée et présente envers d'autres croyants. Il est au courant des lacunes de leur vie spirituelle et des problèmes actuels auxquels ils doivent faire face. De plus, ce rédacteur anonyme exprime son intention de venir leur rendre visite, si possible accompagné de Timothée, et leur demande de prier pour lui. Ces informations glanées tout au long de l'épître semblent indiquer que l'auteur a eu un rapport personnel avec cette communauté, probablement parce qu'il a passé quelque temps parmi eux, peut-être, a-t-il même été, leur pasteur. Ces Juifs qui connaissent les allées et venues de Timothée ne constituaient pas une secte, mais faisaient partie des chrétiens du 1er siècle. Concernant cet auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux, beaucoup de noms ont été suggérés, mais on ne peut déterminer son identité avec certitude. Ceci dit, on sait qu'il ne faisait pas partie des 12 apôtres, et on peut tout de même esquisser quelques traits de sa personnalité. Comme je l'ai dit, il connaît parfaitement l'Ancien Testament et il sait comment l'appliquer à la nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ. Il sait poursuivre une réflexion et conduire un raisonnement à son terme par des affirmations qui peuvent difficilement être contredites. C'est un homme au cœur ardent qui s'implique dans ses exhortations car il se montre très soucieux du bien-être spirituel de ses auditeurs à qui il porte un intérêt sincère. Il est tellement émerveillé par la grandeur du Dieu de miséricorde qu'il est très sévère envers ceux qui, par leur attitude, le méprisent. Selon une vieille tradition qui date du second siècle, on attribue la paternité de l'épître à l'apôtre Paul. Clément d'Alexandrie, écrivain grec chrétien d'origine païenne, pensait que Paul avait écrit cette épître en hébreu et que Luc l'avait traduite en grec. Origène, qui fut l'un des deux plus grands théologiens de l'Antiquité, doutait d'une origine paulinienne de cette lettre à cause de son style et affirma que seul Dieu savait qu'il l'avait écrite. Au second siècle, c'était surtout en Orient qu'on croyait que Paul était l'auteur. Puis, deux pères de l'Église, Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, et saint Augustin ont popularisé cette idée en Occident. Mais depuis le début du XXe siècle, à cause du style, du vocabulaire et des objectifs visés par l'auteur, on a définitivement abandonné une paternité paulinienne de cette épître. L'autre nom qui a circulé depuis le second siècle de notre ère est Barnabas, le premier partenaire missionnaire de l'apôtre Paul. C'est l'écrivain latin chrétien Tertullien qui est le premier à l'avoir affirmé. Dans un de ses ouvrages, il cite un extrait du livre aux Hébreux et dit que c'est un passage tiré d'une épître de Barnabas. Et il n'exprime pas une opinion personnelle, mais plutôt un fait établi que ses lecteurs connaissent. Au IVe siècle, deux auteurs chrétiens mentionnent aussi Barnabas. Et dans l'ancien recueil des livres canoniques, trouvé dans le manuscrit appelé Codex Clermontanus, l'Épître aux Hébreux paraît sous le nom de l'Épître de Barnabas. Dans l'ensemble, les preuves ne sont pas écrasantes, mais le fait qu'elles viennent d'Occident est significatif car dans l'Épître aux Hébreux, la seule référence géographique se rapporte à l'Italie. À d'autres égards, Barnabas remplit les exigences de paternité de cette épître. En effet, dans le Nouveau Testament, il est appelé « apôtre » et comme il était lévite, il connaissait parfaitement le fonctionnement du système sacerdotal juif et aurait été capable de le décrire en détail tout en montrant comment Jésus-Christ avait parfaitement accompli toutes ses exigences. De plus, comme il avait été un compagnon de Paul, il serait normal qu'il y ait des liens étroits entre les enseignements de l'Épître aux Hébreux et ceux des lettres de l'apôtre Paul. De plus, comme Timothée était originaire de la région qu'il avait traversée en compagnie de Paul lors de son premier voyage missionnaire, ces deux hommes se connaissaient fort bien. Si, au moment de la rédaction de l'Épître aux Hébreux, Paul est mort, il n'aurait pas été surprenant que Timothée se joigne alors à Barnabas. Le désaccord qui avait séparé l'apôtre Paul et Barnabas était réglé depuis longtemps et Paul avait par la suite dit du bien de Marc, cousin de Barnabas, et la raison de la discorde. Si Barnabas est l'auteur de cette épître, alors les destinataires pourraient bien être l'église judéo-chrétienne de l'ancienne ville de Cyrène en Libye. Cette cité fut établie au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais comprenait au 1er siècle de notre ère une communauté juive importante et influente. D'après le livre des Actes, l'église d'Antioche en Syrie a été fondée par des missionnaires venus de Chypre et de Cyrène. Or, Barnabas était originaire de Chypre et quand il exerça un ministère dans l'église d'Antioche, ses deux compagnons s'appelaient Lucius de Cyrène et Siméon, aussi appelé Niger, qui signifie « noir ». Peut-être que Siméon venait d'Afrique du Nord comme Lucius. Nous ne savons pas si cet homme est le même que celui qui porta la croix de Jésus, mais ce Siméon venait lui aussi de Cyrène et il avait deux fils, Alexandre et Rufus, qui faisaient peut-être partie de l'église de Rome. De toute façon, nous savons qu'il y avait des contacts entre les croyants de Cyrène et ceux de Rome, ce qui explique l'allusion aux frères d'Italie à la fin de l'Épître aux Hébreux. Si l'auteur est Barnabas et les lecteurs les juifs chrétiens de Cyrène, tout se recoupe plutôt bien. Certes, on ne peut affirmer que c'est lui l'auteur, mais cette possibilité est plus crédible que toutes les autres qui ont été avancées. Parmi celles-ci, on trouve Apollos, suggéré par Luther. Bien qu'aucune tradition ancienne ne soutienne cette candidature, elle ne manque pas d'atouts. En effet, il était originaire d'Alexandrie et un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux manifeste une grande prouesse intellectuelle et qu'il a des affinités avec le vocabulaire et les thèmes caractéristiques du philosophe juif Philon d'Alexandrie, Apollos pourrait lui aussi être le père de l'Épître aux Hébreux. D'autres noms comme Luc, Étienne, Philippe l'Évangéliste, Pierre, Silas, Jude, Priscille et Aquila sont moins prometteurs. Concernant la date de la rédaction de cet épître, comme on ne connaît ni l'identité des destinataires ni l'auteur, ce sont des informations qui se trouvent à l'intérieur de l'épître qui permettent d'établir une fourchette relativement précise. On constate tout d'abord que l'assemblée à qui cette lettre est adressée a déjà tout un passé derrière elle, ce qui veut dire que nous sommes dans la seconde moitié du 1er siècle. Deuxièmement, le temple de Jérusalem est toujours en service. Car s'il avait été détruit, ce qui eut lieu en l'an 70 de notre ère, sa disparition aurait fourni à l'auteur un argument de poids pour dire que le système sacerdotal de l'Ancien Testament était remplacé par le Christ, mais il ne le fait pas. Troisièmement, dès sa sortie de prison, Timothée s'est mis en route pour rejoindre l'auteur de cette lettre au lieu de l'apôtre Paul, ce qui semble indiquer que ce dernier a déjà été exécuté, or il a été emprisonné en l'an 66 ou 67. Tous ces indices permettent de fixer une date de rédaction qui est entre l'an 66 et 69 de notre ère. On peut donc dire que cette épître est une exhortation dense et pressante, rédigée par un responsable d'église, investi d'une grande autorité, à une communauté judéo-chrétienne peu avant la destruction du temple. L'auteur définit son écrit comme une lettre d'encouragement à des chrétiens en proie à des pressions répétées de juifs incroyants. Après avoir placé leur confiance en Jésus-Christ, ils étaient tentés d'abandonner leur profession chrétienne pour retourner à leur foi ancestrale et bénéficier ainsi du soutien de la communauté juive traditionnelle et du culte sacerdotal lévitique bien rodé et qui leur était familier. L'objectif de l'auteur est donc de démontrer que dans tous les domaines, les grâces disponibles en Jésus-Christ sont très supérieures à celles que l'Ancienne Alliance pouvait offrir. En utilisant fréquemment l'Ancien Testament, l'auteur contraste les stipulations imparfaites et incomplètes de l'Ancienne Alliance données par Moïse avec celles de la Nouvelle Alliance. Il consacre de longs développements au système sacerdotal lévitique afin de montrer qu'il est devenu obsolète parce que Jésus-Christ en est l'accomplissement parfait. Les images et les symboles de la loi doivent désormais céder la place aux réalités de la nouvelle alliance. Le péché, écrit-il, interrompt constamment la communion entre Dieu et Israël, le peuple de l'alliance qu'il s'est choisi. Mais dans sa grâce, l'Éternel a établi un système sacrificiel qui couvrait les fautes des repentants. Cependant, il était nécessaire d'offrir constamment des sacrifices d'animaux parce que le peuple et les prêtres ne cessaient jamais de se rendre coupables devant Dieu, ce qui fait que la barrière qui permettait l'accès à Dieu s'élevait et s'abaissait sans cesse. Les Israélites, et par extension le monde entier, avaient donc besoin d'un sacrifice et d'un grand prêtre qui soit à la fois parfait et qui ôterait le péché une fois pour toutes. C'est dans ce but que Dieu a envoyé son Fils sur terre. Sous le régime de la loi, il était impossible aux croyants d'avoir un accès direct à Dieu et d'entrer dans le lieu très saint. Par contre, sous le régime de la grâce, les croyants peuvent entrer directement dans la présence de Dieu et s'approcher de son trône avec assurance parce qu'ils pénètrent dans les cieux à la suite du Sauveur. Ceux qui croient en Jésus-Christ, le sacrifice pour les péchés, possèdent un grand prêtre parfait dont le ministère ouvre une ère nouvelle et bien meilleure que sous la loi. L'auteur souligne avec force et même avec une certaine violence dans ses propos qu'il existe pour le pécheur un seul intermédiaire et en même temps qu'il est parfaitement suffisant entre Dieu et l'homme, le Fils de Dieu. Il est donc indispensable de s'attacher à lui sans réserve et de récuser toute autre forme de médiation concurrente et surtout celle des sacrifices d'animaux qui structurent le culte de l'Ancienne Alliance. Mais l'auteur s'élève aussi contre les rites de purification, les régimes alimentaires de type ascète ou encore la médiation des anges prisée dans certains milieux juifs, sectaires et syncrétiques. Il faut dire qu'à cette époque, certains juifs qui vivaient dans l'attente messianique s'étaient retirés de la société et avaient établi des communautés comme celle de Qumran à proximité de la mer Morte. Ils intégraient l'adoration des anges à un judaïsme apostat, affirmant même que l'archange Michel avait un statut supérieur au Messie. Ce genre d'aberration explique l'insistance de l'auteur à montrer la supériorité absolue du Christ sur tous les anges. L'auteur accompagne sa démonstration de l'excellence de Jésus-Christ d'un avertissement solennel, d'une menace à glacer le sang quand il dit que revenir en arrière est non seulement dramatique, mais un déni et un rejet de la grâce en Jésus-Christ qui ferme toute possibilité d'un nouveau retour à Dieu. L'affaiblissement des convictions chrétiennes de cette communauté judéo-chrétienne résultait de plusieurs facteurs et tout d'abord de la tentation de retourner à la sécurité des traditions, des cérémonies et des rites centrés sur le temple. Dans une religion, tout est prévisible, bien établi et ronronne. Il suffit d'entrer dans le système et il vous prend en charge. Mais c'est une fausse illusion qui mène droit à la perdition éternelle. En second lieu, ces chrétiens étaient persécutés non seulement par les juifs traditionnels, mais par Rome, parce que contrairement au judaïsme, le christianisme était considéré comme une religion illicite. Plus généralement, cette épître met en garde tous les croyants de toutes les époques contre le relâchement spirituel et l'acceptation paresseuse d'un petit train-train religieux. Si la lettre que Paul a écrite aux Romains montre la nécessité de la foi chrétienne, l'Épître aux Hébreux révèle sa supériorité sur tout autre mouvement religieux et en particulier sur la loi de Moïse. Celle-ci était bonne, mais la grâce lui est tellement supérieure. Cet Épître contient de nombreuses exhortations à garder les yeux de la foi rivés sur Jésus. J'en lis deux. Mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Fin de citation. Au-delà de toute polémique, l'auteur de cette épître a voulu montrer la suprématie du Christ qui cumule en lui tout ce dont vous et moi avons besoin maintenant et pour l'éternité.